Bonjour et bienvenue dans cet épisode de rentrée si vous l'écoutez au moment de sa sortie. Vous allez entendre dans ce podcast ma rencontre avec Thècle, qui est une chef passionnée, curieuse, gourmande, qui n'a de cesse de vouloir faire découvrir la cuisine végétale au plus grand nombre. Toute petite, Thècle cuisine pour sa grande famille, mais elle s'imagine devenir infirmière. Et c'est grâce à une expérience de stage en cuisine qu'elle découvre l'envers du décor des cuisines professionnelles. À partir de là, elle entame un long parcours de formation. Elle va passer dans plusieurs pays, sur plusieurs continents même, pour élargir la palette des saveurs, des techniques, des expériences culinaires qui vont l'amener jusqu'à Bruxelles où je l'ai rencontrée il y a quelques années. Vous ne verrez jamais Thècle dans Top Chef. Elle préfère de loin la collaboration à la compétition. Elle s'allie à d'autres entrepreneurs pour donner envie de saveurs, de végétal, de créativité dans les assiettes, aussi bien des professionnels que des particuliers. Et toujours dans le respect des besoins de chacun, notamment en matière d'allergènes. J'espère que vous allez passer un bon moment. Et si vous êtes à table, bonne dégustation! Eh bien, bonjour Thècle.
Bonjour Jessica.
Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à cette proposition. On se connaît via le réseau des mompreneurs depuis quelques années déjà que tu es là.
Oui, je pense à peu près 5 ans, hein, 4-5 ans.
Voilà, et j'entends parler de tes aventures gourmandes, mais du coup, j'étais assez curieuse de pouvoir avoir un moment pour... Oui, que tu puisses dérouler en fait le fil de ton histoire et puis de tes aventures entrepreneuriales aussi. Et pour commencer, je voulais te demander quel titre je peux te donner, comment, c'est quoi ton métier, qu'est-ce que tu fais?
D'accord. Déjà, merci de me donner cette opportunité, c'est vraiment chouette. Alors, pour mes activités, donc c'est un peu multicasquette. Voilà, je suis anciennement chef de cuisine, je suis consultante en alimentation durable. Mmh. Et formatrice professionnelle, donc j'accompagne les chefs de cuisine, les équipes de cuisine par le biais de formations professionnelles vers l'alimentation durable, mais mon expertise est majoritairement la cuisine végétale, avec un plus sur la cuisine sans allergène, donc sans gluten, sans lactose, tous les 100-100-100.
D'accord, d'accord. Et quand est-ce que ça a commencé, cette histoire de cuisine? Est-ce que t'es tombée dans une casserole quand t'étais petite? Comment ça démarre?
Ah oui, c'est un peu ça. C'est vers 7 ans que j'ai commencé à faire mes premières recettes avec ma maman. Mm-hmm. Et comme je suis d'une famille nombreuse, ben, on va dire que de fil en aiguille, je faisais quasiment les repas presque tous les jours.
T'étais l'aînée?
La troisième,
ouais.
de 10.
Ah oui, d'accord.
La troisième de 11, ouais, si je me compte ou si je me compte pas. Voilà.
T'as 10 frères et sœurs.
Voilà, c'est ça.
Oui, donc il fallait des grosses marmites, quoi.
Oui, et donc on cuisinait quand même pas mal des plats plutôt traditionnels. C'était super bon, hein. Mes parents quand même avaient un potager certaines années. On allait aussi à la ferme acheter la viande. Je faisais mettre un demi-cochon de côté dans le congélo. Voilà. Et donc, on faisait des recettes assez traditionnelles, tu sais, comme les blanquettes de veau, la poule au pot.
Des choses marinées, des choses qui...
Oui, les potées. Et puis même les abats. J'ai appris à cuisiner les abats, les champignons, voilà, tout plein de choses comme ça. Vraiment, la cuisine de terroir, en fait.
T'étais dans quelle région en France?
Moi, je suis née à Bordeaux,
ouais.
Mais j'ai beaucoup vécu à Nantes,
okay.
Donc là, jusqu'à mes 5 ans, mes 18 ans à Nantes. Mais mes parents sont plutôt de la région de l'Auvergne. Mm-hmm. Et donc, voilà, ça reste quand même des... Oui, il y a des chouettes recettes
d'accord.
là-bas, au niveau régional. Et même chaque région, en fait, en France, quand même, est chargée au niveau des... Voilà, au niveau du terroir, dans le sens les produits, au niveau des recettes, de la transmission, il y avait quand même beaucoup de choses, même si ça se perd avec le temps.
Ok, ok. Et est-ce que dès ton parcours de formation, la cuisine, c'est une évidence pour toi? Ou est-ce que tu rêvais de faire d'autres choses quand tu étais petite?
Ah, oui. En fait, petite, je voulais être avocate. Puis après, c'est devenu... je voulais devenir infirmière.
Okay.
Donc, j'ai fait une filière scientifique
okay.
jusqu'à l'équivalent du CESS voilà, pour devenir infirmière. Puis en fait, bon, ça ne s'est pas passé comme prévu avec une année de flottement. Et c'est après, en allant faire un stage d'observation dans un restaurant gastronomique, qui était spécialisé dans les fruits de mer et les poissons à Nantes, et ça s'appelait La Poissonnerie, où ils faisaient, tu sais, le service au guéridon, découpage devant le client, les flambages, là, tout ce genre de choses vraiment
spectaculaire, quoi.
Oui, avec un maître d'hôtel, tout ça.
Ouais.
Que là, ça m'a éveillé un peu, en tout cas, ça m'a donné envie d'aller faire des études de ce côté-là, parce que à la maison, je faisais à manger, mais aussi j'aimais bien faire des belles tables.
D'accord.
Quand c'était les fêtes, ou même des fois quand mes parents, au lieu de sortir au restaurant, je faisais comme un repas à la maison.
T'étais chef à domicile avant l'heure.
Voilà, non mais le dressage des assiettes, de la table, des assiettes, les serviettes, le pliage des serviettes, les bougies, voilà, tout, la totale.
Ouais, ouais. L'art de la table.
Ouais, l'art de la table. D'abord, c'est l'art de la table qui m'a attirée. Et donc, j'ai fait... mes études en alternance, on va dire de manière intensive, en fait. En France, la filière de l'HORECA, donc l'hôtellerie-restauration, est quand même assez cadrée. Et ça se passe beaucoup par l'apprentissage ou par le fait de travailler en alternance. Et du coup, j'ai cumulé trois diplômes, on va dire, pour le service en salle, qui se fait normalement en 6 ans. Je l'ai cumulé en 2 ans.
D'accord.
Pour gagner du temps.
Parce
que, en fait, et c'était vraiment le focus... la pratique et toutes les matières appliquées, en fait. Les autres matières, comme les maths, la géographie et tout, qui normalement sont dans les cursus habituels, ils m'ont dispensé parce que j'avais déjà un CESS scientifique. Donc bon, voilà, il n'y avait pas trop besoin de travailler de ce côté-là.
Okay.
Donc, ça... Et puis après, les vins m'ont attiré. Donc, c'est parce qu'en fait, dans le restaurant où j'étais, donc dans la poissonnerie, c'était
toujours.
Ce restaurant-là où j'ai fait mon... le fameux stage d'observation, j'ai fait mon alternance là-bas pendant 2 ans. On faisait beaucoup d'accords mets vins, on faisait aussi beaucoup de dégustations, essayer de créer des nouvelles choses. Et je sentais bien que je n'avais pas assez de connaissances dans les vins, mais c'était chouette. Du coup, je suis partie faire mes études sur Paris dans une cave, toujours en alternance, mais avec l'école hôtelière de Vannes.
Donc,
je faisais les allers-retours entre Paris et Vannes tous les 2 mois.
Okay.
Pendant 15 jours, on dormait là-bas à Vannes. On faisait la partie plus théorique. Voilà. Et pareil, apprendre à faire un accord mets et vins, apprendre à déguster. Et puis après, on est parti faire des vendanges. On est parti aussi en Italie, en Hongrie. Voilà, dans des régions géographiques pour découvrir autre chose un petit peu. Et c'était... ouais, j'ai adoré. Donc ça, c'était comme aussi un autre CESS.
Oui,
dans
encore.
Les vins. Et
là,
tu étais
sommelière, alors ?
Oui, j'étais sommelière.
Ouais.
Donc voilà, maître d'hôtel, puis sommelière. Et ensuite, j'ai fini par la cuisine parce que ça m'attirait toujours.
Oui.
Et du coup, j'ai continué sur Paris. Cette fois, je suis allée chercher une école hôtelière. Donc c'est l'école des métiers des arts de la table. Où là, pareil, j'ai demandé à faire 3 diplômes. Normalement, en 6 ans, je l'ai fait en 2 ans. Pour gagner du temps.
Oui.
Je commençais à avoir 25-26 ans. Je n'avais pas encore traîné pendant des années et des années. Voilà, comme ça, à faire des études. Donc, et ce qui me permettait d'avoir un contrat en même temps. En fait, quand l'apprentissage, l'alternance, on a quand même un contrat de travail, même si on est moins rémunéré, on a quand même un contrat de travail en même temps qu'on fait les études. Donc,
et comme tu bosses beaucoup, tu as juste besoin d'un endroit pour rentrer, dormir et repartir. Et
oui, c'était un peu ça. Oui, c'est ça.
Ok, mais donc tu es passionnée, quoi. C'est vraiment un truc où tu t'investis, tu mets vraiment toute ton énergie, tout ton temps dans ces formations, quoi.
Oui, en fait, pour moi, c'était nécessaire dans le sens... Oui, ça me nourrit, en fait. En fait, je veux comprendre. J'ai soif d'apprendre. Et alors... j'ai une très mauvaise mémoire, je mémorise très très mal, donc c'est vraiment moi par l'expérience sensorielle, par l'action que j'apprends, beaucoup plus que par juste apprendre par cœur.
Oui, ouais, voilà, c'est pas de la théorie, quoi.
J'ai un de mes frères qui est devenu sommelier dans des grands hôtels, restaurants et tout. Il a fait une reconversion, avant il n'était pas du tout là-dedans, mais lui il est capable de bachoter, apprendre par cœur et tout, juste pour passer les diplômes de sommellerie, mais au niveau international, il y a des choses comme ça, apprendre toutes les régions, tous les vignobles, tous les voilà, ouais. Tous, moi, tous les domaines, j'ai ah non, moi je peux pas parce qu'il a une mémoire de ouais énorme. Chose que moi, non.
C'est vraiment la pratique. Il faut que tu sois dedans. Ouais. Ok. Et est-ce que tu avais une vision de ton objectif? Tu avais une ligne d'arrivée que tu visais? Ou bien ça se construit au fur et à mesure des rencontres, du parcours?
Alors, quand j'ai pris la décision de continuer sur la cuisine, en fait, je me suis aperçue que voilà, il y a tellement de choses à apprendre que pour moi, au départ, et ça a toujours été, et ça l'est encore, hein, c'est apprendre. Vraiment ça, et de diversifier les expériences au maximum pour pouvoir, en fait, apprendre toujours plus.
Oui.
Et quand j'ai fait mes 2 années d'alternance en cuisine, normalement, c'est au même endroit pendant 2 ans. Comme j'avais fait pour la poissonnerie en tant que maître d'hôtel. Et là, en fait, ou même comme j'ai fait dans la cave où j'étais à l'époque. Mais là, j'ai vraiment demandé spécifiquement, pendant ce cursus, j'ai demandé à faire à 2 endroits différents. Parce que je savais déjà que voilà, dans la restauration, il y a plein de types de restaurants. Mm-hmm. Et donc, je ne voulais pas être cantonnée à juste voir un restaurant.
La même cuisine tout le temps.
Oui. Ouais. Donc, j'ai fait dans un bistrot avec un chef, une petite équipe en cuisine et tout, qui lui avait pas mal voyagé. Qui travaillait aussi beaucoup avec les épices, et il faisait une cuisine de bistrot plutôt assez traditionnelle, mais réinventée avec des saveurs qui viennent d'ailleurs. Mm-hmm. Donc c'était très chouette. Tu vois, des pot-au-feu épicés peut-être avec des saveurs plutôt thaï, des choses comme ça. Mm-hmm. Voilà, des choses un peu revisitées. Ça, j'ai fait ça une année, et après, j'ai décroché un contrat d'alternance. C'est à l'équivalent du Pullman à Montparnasse. Mmh, mmh. Donc c'était le Méridien à l'époque, mais c'est devenu le Pullman Montparnasse. Ouais. Donc c'était le groupe Accor.
Ouais.
Parce que je voulais voir comment ça se passait dans les hôtels.
Ouais.
Donc là, c'était plutôt préparer les buffets. Mmh. Buffet froid, buffet chaud. Après, je suis passée en pâtisserie. Donc faire tous les buffets de pâtisserie, les verrines, les choses comme ça. Donc c'était très chouette. C'est complètement différent.
Ouais,
faut pas avoir les mêmes attentes de...
Les mêmes standards.
Ouais, voilà, entre la cuisine gastronomique, bistronomique et celle de traiteur ou d'hôtel, c'est complètement différent.
Mmh.
Et après, tout le long de ma carrière, donc à peu près encore 8-10 ans, après, j'ai continué à essayer presque à chaque fois de tous les ans ou tous les 2 ans de changer d'entreprise exprès, en fait. Donc j'arrivais dans les restaurants, je passais des entretiens, peut-être des fois une période de probation, mais je leur disais toujours, je ne suis pas là pour rester plusieurs années, c'est vraiment pour apprendre, et après, si j'ai besoin, je pars, en fait. Et ça se finissait globalement toujours bien.
Oui, c'était apprécié, ou est-ce que tu étais un ovni d'avoir cet état d'esprit à vouloir bouger beaucoup?
Non, beaucoup, quand je leur disais d'entrée de jeu, dans les entretiens, que voilà, je ne vais pas rester, pour eux, ils trouvaient ça super chouette, dans le sens que je sais pourquoi je viens là,
ce
que je veux prendre, et que voilà, c'est le but, c'est d'apprendre, de donner, une forme d'honnêteté qu'ils appréciaient, et ils comprenaient, en fait, au bout du compte, vu que moi j'ai pas fait depuis la fin le milieu du secondaire, donc nous c'est la 3e en France. J'ai pas fait le CAP, le BEP, le bac pro vraiment en 6 ans. Ils comprenaient, en fait, qu'en fait j'ai besoin d'accumuler des expériences différentes pour pouvoir, en fait, vraiment être plus à l'aise, plus polyvalente, et tu vois, être capable de jongler à différents postes, de pouvoir tourner à différents postes, parce qu'en fait en cuisine il y a plusieurs postes que tu peux faire, donc c'est ça. Moi j'ai fait le garde-manger, donc c'est tout ce qui est froid et salade, etc. Et entrée, et après j'ai fait le chaud. J'ai fait les desserts, pâtisserie. Après, en plus, suivant, si c'est en hôtel, il peut avoir le poste de poisson.
Mm-hmm.
Donc voilà, j'ai quand même tourné le plus possible pour apprendre. Même si, par exemple, je ne suis pas une pâtissière, même si je ne suis pas... voilà. C'était vraiment ça, le souci. Et oui, ils étaient plutôt globalement contents. Ils savaient à quoi s'attendre, en fait, au bout du compte. C'est pas... du jour au lendemain, comme ça.
Est-ce que tu avais le projet d'avoir ton activité? Est-ce qu'il y avait une fibre entrepreneuriale déjà là?
Alors là, pas du tout. Parce qu'en fait, on m'avait déjà posé la question, est-ce que tu pourrais ouvrir ton restaurant, nanana. Je dis, non, jamais.
Ouais.
Parce que ça demande un investissement physique, psychologique, financier. Et pour moi, c'était... je savais que je voulais avoir des enfants. Et en plus, voilà, rien que penser d'avoir avoir des enfants et avoir un restaurant, et moi, pour moi, c'était comme incompatible.
Ok.
Donc, okay. Vraiment, dans ma tête, c'était comme...
C'était pas ça ton chemin.
Oui, voilà. Tout comme il y en a certains qui me demandent, est-ce que t'as envie de faire des concours, voilà, top chef, ça serait bien. Non, c'est pas du tout mon truc.
On verra pas Tecle courir dans les cuisines.
Oui, la sorte de compétitivité, moi, ça me... voilà, je préfère qu'on travaille plus sur la coopération, sur la cohésion, qu'on travaille ensemble, qu'on s'enrichit, que d'être sur la compétition, qui parfois est bien. Ça permet de challenger, d'avancer, de s'améliorer, mais voilà, ça a aussi certains... des avantages.
Ouais,
donc j'y pensais pas du tout. Pour moi, entreprendre, ça serait quand je serais à la retraite.
D'accord.
Tu vois, quand j'aurais fait carrière.
Et donc tu te voyais passer d'un resto à l'autre. Je sais que tu as voyagé.
Oui.
Comment c'est venu ce projet-là d'expatriation ?
Depuis l'âge de 15-16 ans, je savais que je voulais pas vivre en France.
Ok.
Mon ex-mari avait l'opportunité d'étudier à l'étranger, en fait. Il faisait de la recherche. Et du coup, moi, je lui ai dit...
Go.
Cherche. Cherche quelque part, on y va. Donc, il a commencé à chercher. Les premières propositions, c'était en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est pas fait.
Ça fait loin, ouais.
Après, il y a eu... sur la table, c'était Boston. Et puis, en fait, à la fin, c'est Montréal qui a été le plus proactif pour conclure... pour qu'il puisse continuer ses études là-bas. Et donc, en fait, voilà, j'ai vécu 4 ans à Montréal.
Oui.
Et après ça aussi, après Montréal, voilà, j'ai vécu aussi 3 ans à Madrid. On a rebondi à Madrid.
OK.
Avant d'arriver ici.
À peu près à Bruxelles.
Ouais, voilà, c'est ça. Maintenant, ça va faire 5 ans que je suis à Bruxelles.
Et toujours à ce moment-là, tu te dis, je fais une pause et je suis maman, ou tu pars travailler, ou c'est ton projet en suivant finalement son projet professionnel. Toi, tu te voyais dans quelle situation à ce moment-là ?
En fait, quand je suis arrivée à Montréal, tout de suite, j'ai travaillé. En moins d'une semaine, j'avais un travail. Juste 2 entretiens, une journée d'essai, c'était bon. Donc ça, pour trouver un travail, il n'y a aucun problème. Surtout avec des diplômes, surtout avec un peu d'expérience. J'avais déjà les années d'alternance, donc ça fait comme 2 ans. Plus, j'avais travaillé 3 ans, dont une année, j'étais responsable du poste du show et des sauces. Ça, c'est le poste le plus important en cuisine. Donc, du coup, j'avais pas du tout de difficulté à trouver un travail. Donc, j'ai travaillé jusqu'à 3 ans et demi. Je suis tombée enceinte juste après.
J'allais venir, mais la gastronomie à Montréal, est-ce que c'est très différent, la façon de travailler, les cuisines à Montréal par rapport à ce que tu connaissais en France ?
Oui. Alors, à l'époque, parce que je pense que ça a dû évoluer. Hein, ça évolue toujours. Hein. Donc moi je suis arrivée là-bas en 2010, donc ça fait quand même 10 ans, un peu plus de 10 ans. Oui, il n'y a pas la culture de la gastronomie, mettre de l'argent vraiment pour aller manger chez un étoilé, c'est pas dans la culture québécoise, canadienne un peu plus, mais québécoise pas trop, parce qu'en fait ils voient pas l'intérêt de mettre autant d'argent là-dedans.
Pour avoir des jolies serviettes et
Oui, et en fait, il n'y a pas énormément d'étoilés non plus.
Oui, ouais.
Parce que tout est lié. Hein.
Ouais, ouais.
Mais entre 2010 et 2014, presque 2015, j'ai quitté. Il y avait déjà, c'était les prémices et ça a commencé à sortir, toute une sorte de bistronomie. Mais entre le bistrot et le gastro, donc c'est pas juste bistrot chic. Un peu tendance, trendy, voilà, un peu hype. Non, c'était vraiment à travailler plus sur l'approvisionnement, des approvisionnements en circuit court, à valoriser les appellations d'origine protégée qu'il y a là-bas, à mettre des bons vins, en fait, à faire venir des bons vins, commencer à avoir aussi des vins nature, tout ça qui commençait à apparaître. Non,
qualité, quoi.
Voilà, ça commençait à prendre petit à petit vie. Et souvent, c'était des chefs qui avaient travaillé plutôt dans des... un peu partout dans le monde, dans des belles maisons, et qui revenaient et qui ouvraient des restos comme ça. Donc oui, il y avait des chouettes choses qui commençaient, des bars à vin aussi, de plus en plus, même si ça coûte très très cher de boire du vin là-bas.
D'accord.
Plus cher que de boire des bières. et donc, ouais. Donc voilà.
Ok.
C'est, oui.
Et alors à ce moment-là, arrive un petit bout.
Oui, c'est très curieux en fait. Moi, c'est quand on est jeune, c'est comme ça. Moi, je calculais, je travaille. Puis oui, il y aura des enfants, mais bon, comment ça va se passer? Comment après je vais faire le travail et les enfants? Moi, j'étais complètement... Je pensais même pas à ça. Sauf qu'en fait, quand tu tombes enceinte, là, tu dis, ah oui, c'est là où tu commences à réfléchir un peu plus. Tu dis, peut-être qu'il va falloir calculer autrement que la vie que j'avais avant.
Ouais.
En tout cas, que, je, voilà, que je, j'ai là et comment je fais. Donc, et quelque chose qui a vraiment, vraiment fait basculer le tout, c'est que le fait, j'ai vraiment eu la chance d'être au Québec pour faire ma grossesse, dans le sens où, quand tu es en cuisine, tout, comme dans tous les métiers à risque, en fait, il faut un retrait préventif. Et du coup... Tu peux être retiré quasi... Bah, c'est 9 mois, hein, en fait. Ouais. Dès que tu sais que tu es enceinte, tu peux dire.
Dès que tu es écartée.
Voilà. Mais moi, je ne le savais pas. Hein. Donc, en tant que française, j'ai travaillé tout ce que je pouvais. Voilà. C'était un peu compliqué au début, avec les nausées, etc., etc., d'aller au travail.
Ouais,
et
en attendant. De...
et c'est une amie, en fait. C'est par une amie que j'ai su ça. Je dis, ah, mais je ne savais pas. Elle dit, tu dois te faire retirer. Ça faisait déjà presque... J'arrivais à mon 4e mois. Et donc, quand j'ai annoncé ça au chef, il dit « Mais comment t'as fait ?» Et là, je regarde « Chef, bah, comme tout le monde, hein, pour tomber enceinte, il n'y a pas de miracle. » Donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, j'ai été retirée pendant le reste de la grossesse. Et je ne vais pas dire que j'ai savouré le fait d'être
en pause.
De ne plus travailler.
Ouais.
Parce que j'ai un côté hyperactif chez moi qui...
Oui, ça doit pas... c'est la première fois que tu t'arrêtes, en fait. Depuis que tu es sortie de l'école, tu as tracé, tu as bossé, tu as bossé, quoi.
Et puis, c'est pas...
C'est des mois.
Oui, des mois. Et puis, en fait, le rythme qu'on avait, c'était plutôt du 70 heures à 80 heures semaine
ça.
Que du 40 heures. Donc...
Te retrouver chez toi, ça doit faire bizarre.
Voilà. Donc, c'était un peu... Donc, j'ai commencé à faire du bénévolat.
On va pas l'arrêter pour si peu.
Donc voilà. Et c'était vraiment un super moment. Ça m'a beaucoup, beaucoup enrichi. Et ça m'a fait voir que voilà. Oui, le travail, c'est bien, mais il y a autre chose aussi. Et qu'en fait, tu peux t'enrichir autant sans forcément avoir un travail, entre guillemets.
Ouais, ouais, ouais.
Donc voilà.
Un autre rôle social à ce moment-là.
Oui. Et donc...
Et donc, ce bout de chou arrive. Comment ça se passe une... c'est ta fille d'abord, hein?
Non, c'est mon...
C'est ton fils d'abord, l'aîné.
Ouais, mon garçon.
Et au niveau garde d'enfants, là-bas, une fois que le bébé est là, c'est quoi le...
Alors, la chance aussi d'être au Québec, c'est que le congé maternité peut être très long, donc jusqu'à une année, où tu peux être rémunéré entre 70% de ton salaire, qui peut tomber comme ça pendant quasi un an. Et donc, moi, j'ai fait ce choix. Là, et de toute manière, au niveau des permis de travail et tout, on a été à un moment où mon permis de travail m'a été retiré et ils m'ont donné un permis touriste. Donc, j'avais pas le choix, de toute manière, je pouvais pas travailler. Donc, c'est ce qui s'est produit. Et puis, on a quitté le Canada avant même que mon congé maternité soit terminé.
D'accord.
On a transité un peu en France avant d'atterrir ensuite à Madrid.
D'accord, ok. Donc, et donc, la nouvelle aventure, est-ce que tu recherches du boulot, du coup, à Madrid?
Ben, en arrivant à Madrid, je tombe enceinte de la deuxième. Donc,
okay.
c'était un peu short. Mon plus grand, il avait 10 mois, tout juste, même pas 10 mois.
Ouais.
Donc, et je ne savais pas parler espagnol.
Oui, quand même, petit détail.
Non négligeable. Et du coup, j'ai pris ce temps-là pour déjà apprendre l'espagnol, m'occuper de mon plus grand, parce que je pouvais, la crèche coûte très 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 cher. En fait, si je vais travailler, le peu de temps que la quantité de temps que je vais passer va passer, en fait, l'argent que je vais gagner va passer dans les frais de garderie, et même, ce serait même pas suffisant, en fait, pour payer, en tout cas mensuellement, les frais de garderie.
Oui, donc, plus voilà. Le fait qu'il serait du coup gardé en espagnol, je sais pas si vous voyez rester là longtemps, mais c'est des choix pas anodins, quoi.
Ah, ça me posait aucun problème. C'était okay. Donc, aucun problème. Mais comme après, en plus, j'étais tombée enceinte, et voilà, les débuts de grossesse avec nausées, etc., etc., aller chercher un job sans parler espagnol, en ayant des nausées, voilà, tout plein de trucs comme ça, c'était comme, bon, pas réaliste.
Ouais.
En tout cas, pour moi, c'était pas assez professionnel pour pouvoir enclencher ce genre de choses. Et risquer aussi, travailler en cuisine, voilà, il y a quand même un risque. Donc voilà. Mais j'en ai profité pour faire connaissance de la communauté des expatriés francophones sur place, à Madrid, ce qui me permet d'avoir un certain soutien en même temps que j'apprends l'espagnol et de rencontrer du monde,
pas être seule avec ton bouchou et ta grossesse toute la journée.
Voilà, exactement. Mais au fur et à mesure, j'avais commencé à parler espagnol avec les voisins, voilà, de plus en plus des rencontres aussi. Et en fait, après j'ai accouché. Et en fait, à peine 3 mois après que j'ai accouché, j'avais dit « Non, mais il faut que je fasse autre chose. » Donc déjà, ça germait depuis super longtemps. Depuis mon premier, ça germait dans ma tête comme quoi il fallait que je fasse autre chose. Ou en tout cas, que je vive de ma passion, mais différemment que travailler 70 heures semaine.
Mmh.
Et du coup, voilà, en discutant avec mon frère, qui était venu, qui était de passage et tout, mon frère sommelier... Qui me disait, mais pourquoi tu donnerais pas des cours ? Et moi, je dis, mais pourquoi je donnerais des cours ? Ben, tout le monde a besoin à la maison, tu vois, d'apprendre à cuisiner. Je dis, ouais, mais tout le monde sait cuisiner. Il me dit, ouais, mais trompe-toi, voilà. Pas forcément des choses bien. Et donc, bon, ok, ça avait trotté dans ma tête. Et puis, ben, je sais pas, j'ai eu un déclic, je crois que c'était le jour de l'an, je crois que c'est le 31, tout le monde allait se coucher, je pense, à 3-4 heures du mat. J'ai commencé à écrire.
Ah ouais.
Avec tout plein de trucs que je pouvais faire pour donner des cours ou des ateliers. Et du coup, voilà, j'ai commencé à me rapprocher du milieu des entrepreneurs expats francophones à Madrid. Et donc, j'ai rencontré des entrepreneurs et... Stéphanie Adélaïde, qui elle était cofondatrice d'une association, c'était les francs risqueurs, qui m'a, elle m'a dit, oui, mais vas-y, ose, essaye, teste.
Ouais.
Donc voilà, et c'est là que j'ai commencé pendant une année test à démarrer Hightech Culinary, en fait, ce qui est devenu Hightech Culinary. Au départ, sous format de, au départ, c'était juste des dégustations.
Oui.
Puis après, c'est devenu comme une sorte, des petits ateliers, mais avec un thème précis, une recette simple, mais déclinée d'une manière un peu originale.
Mm-hmm.
Et la dernière partie de l'expérience, c'était faire des ateliers 100% végétal. Et ça, c'était avec, en partenariat avec, avec Marga, qui était espagnole et qui avait monté une sorte de centre de bien-être. Mais durable.
D'accord.
Pas loin de là où j'habitais, en fait, dans le quartier Hortaleder.
Ok.
Et donc, et le but, normalement, c'était vraiment de ça se remplissait bien. Et en fait, au départ, c'était la communauté francophone qui venait, les expats. Puis au fur et à mesure, c'était des Espagnols francophiles qui étaient intéressés et qui venaient. Et donc, le but, ça aurait été de l'année... Voilà, si j'étais restée une année de plus, c'était vraiment de passer à faire les ateliers en espagnol, même si Marga aurait été beaucoup là au départ pour rectifier des fois mon espagnol un peu coupé au couteau.
Et puis du coup, tu quittes Madrid.
Oui, donc voilà, c'est ça aussi, hein, quand on est en couple, les opportunités des uns ne sont pas toujours les mêmes.
Le tempo est pas forcément...
Que les autres, Et donc, et on est même retourné un peu en France en pensant... Mon mari pensait pouvoir rebondir là-bas et ça s'est pas fait.
Mm-hmm.
Et vu que ça traînait, que ça se faisait pas et que, tu sais, il faut faire bouillir la marmite, hein, quand même.
Oui.
Du coup... j'ai commencé à repostuler dans l'Horeca.
D'accord.
Donc là, c'était le seul moyen d'avoir un travail rapidement. Oui. Et de...
Tu pouvais faire
C'était pas mettre le beurre dans les épinards, mais c'était déjà mettre les épinards dans la casserole, tu vois.
Oui.
Et toutes les propositions en France étaient commis chef de partie, que ça soit d'un bistrot jusqu'à un étoilé. Et moi, j'ai dit, je ne veux plus de poste tu vois, commis, ouais. Parce que voilà, tu vas travailler dans un étoilé, chef de parti, parce que voilà, on va pas jamais te proposer le poste de second, et encore moins de chef, malgré ton expérience. Donc du coup, la seule proposition qui s'était ouverte avec un poste d'un niveau plus élevé en tant que sous-chef, c'était à Bruxelles.
Ok.
Et donc au Pullman de la gare du Midi.
Oui.
Et donc voilà, j'ai pris cette opportunité. Donc j'ai passé les entretiens en distanciel et après j'ai passé une autre série d'entretiens en présentiel et ça s'est conclu comme ça.
Ok, ok.
Donc voilà. Malheureusement, j'ai eu des soucis de santé 6 mois après et que du coup là c'était vraiment, il fallait que je tourne la page, que je peux plus travailler dans l'horeca parce que mon corps ne suit plus en fait.
Oui.
Voilà.
T'as trop donné déjà.
Ah, voilà, donc je peux plus porter de charges lourdes.
Oui.
Et dans l'horeca, c'est, ouais, c'est mission impossible en fait de de pas avoir cette capacité là. Donc voilà, autant se préserver.
D'où le projet de ressortir Hightech Culinary à
Tout
Bruxelles.
Tout à fait.
Ouais.
Donc même si entre Madrid et Bruxelles, il y a eu un temps qui s'est écoulé et que je donnais pas d'atelier, moi j'étais toujours quand même présente avec une forte communauté qui s'est créée au fur et à mesure parce que j'ai commencé par bloguer. Puis après, à être sur les réseaux sociaux régulièrement, à avoir un groupe, j'ai aussi un groupe privé d'entraide pour motiver surtout les personnes le soir dans leur quotidien. Et aussi, en fait, il y a un côté psychologique, c'est comment repenser des recettes que tu fais habituellement d'une certaine manière, comment les repenser pour aller vers quelque chose de plus sain, de, mais tout en restant gourmand. Donc, et c'est sans jugement, c'est sans caricature. Voilà, faut tout enlever, la viande, le poisson, le gras. Non, c'est vraiment accompagner, à réfléchir, à, ouais, développer la créativité de chacun, en fait, à sa maison. Et donc, j'ai jamais lâché ça. Et donc, du coup, je suis partie voir Job Yourself pour vraiment, on va dire, que j'ai un accompagnement cadré.
Sur l'entrepreneuriat.
Sur l'entrepreneuriat. Donc, j'ai fait la phase préparatoire. Mais quand j'ai commencé cette phase préparatoire, hein, en même temps, je faisais mon pivot au niveau du travail. Hein, donc, j'ai trouvé, en fait, voilà, 2 mois plus tard, j'avais un poste en tant que chef externe, responsable des formations de cuisine dans une ASBL, la COBEF, qui accompagne les femmes en insertion sociale et professionnelle pour qu'elles puissent accéder au métier de l'horeca. Et la plupart, en fait, vont vers la cuisine de collectivité. Certaines vont vers l'horeca, qui ont des capacités un peu plus... et qui ont un projet un peu plus poussé. Mais autrement, la plupart vont vers la collectivité.
Oui.
Et donc, je jonglais entre ma phase préparatoire...
D'entrepreneur.
Et en même temps, j'étais à la COBEF, mais j'avais, lors des entretiens, discuté que j'avais ce projet de redémarrer en même temps mon entreprise.
Donc, Ce côté femme dans ton parcours jusque-là, est-ce que ça a été... t'as eu tes maternités, mais est-ce que c'était une question qui était centrale quand t'es sommelière dans des caves, quand t'es en cuisine? Est-ce qu'il y a un élément spécifique qui te fait te sentir, comment c'est accueilli, comment ça se passe pour toi?
Alors, je suis d'une famille nombreuse avec beaucoup de frères.
Oui.
J'ai 7 frères. Et donc, j'ai toujours été habituée à ce rapport masculin.
Oui. C'est ta proportion habituelle, quoi.
Oui. Et quand j'étais plus jeune, on disait que j'étais garçon manqué. Donc, c'était un peu, on va dire, m'adapter à ça, c'est pas compliqué, on va dire. Les codes de la cuisine, avec
en
les
brigade,
discussions pas toujours
ça,
très élevées, des garçons, on va dire, c'était pas, ça me choquait pas.
Ouais.
Par contre, des fois, il y avait des côtés où ça m'exaspérait, et des fois même, ça pouvait me mettre en colère. Et donc, bon, on va dire, il y a l'art et la manière de le dire, parce qu'en fait, souvent, parfois... Alors, ça commence à évoluer, mais souvent, c'est « Oui, mais on blague, sois pas si susceptible. » Donc, pour éviter ce genre de truc, donc c'est trouver la touche d'humour pour dire « Là, il y a un truc qui va pas. Tu devrais peut-être un peu réfléchir à ce que tu dis. »
Ouais.
Donc, parce que, il y a de la misogynie dans les cuisines, en cave... que ça soit même en cave, les clients ou même des vignerons quand tu vas dans les salons ou d'autres cavistes, etc. Il y a des gros stéréotypes. Bon, ça avance petit à petit par rapport à il y a quelques années. La même chose en cuisine, des gros stéréotypes. Bon, on va dire, je tournais beaucoup ça en dérision.
Oui.
Mais après, il y a une certaine forme de colère parce qu'en fait, dans le sens, c'est toujours les mêmes blagues, toujours les mêmes. C'est lourd.
Ça use un peu.
Voilà. Surtout ouais. Arrivé à un certain âge, tu te dis, mais tu veux pas changer de registre un petit peu là quand même. Donc voilà. Et oui, il y avait des garçons qui étaient des hommes, hein, qui étaient lourds, qui faisaient... Ouais, un jour, je suis allée dans un des bureaux du chef pour dire, là, stop. Oui, mais il est gentil et tout. Oui, il est gentil, mais il insiste et il insiste et il insiste parce qu'en fait, avec... Ah, tu voudrais pas faire un tour avec moi? C'est des petits trucs, ça paraît gentil, mais au bout d'un moment, non. Et que, voilà, le chef doit recadrer. Sauf que souvent, les chefs font la même chose. Donc, en fait, c'est ça aussi, c'est tout ce qui est nourri, tout ce qui nourrit ce genre de choses. J'ai travaillé avec un chef pour qui, lui, c'était inacceptable et il ne tolérait pas ça. Et du coup, là, ça changeait carrément l'ambiance de la cuisine. C'était beaucoup plus respectueux.
C'est possible de faire
autrement. On ne se permettait pas ça, en fait. C'était comme ça. Tout comme le rapport à l'humiliation, cette forme de compétition et humiliation qu'il y a généralement très souvent en cuisine, parce qu'on a appris à la dure, tu vois, tu dois te renforcer, très masculiniste sur certains côtés. Moi, j'ai travaillé avec c'est le même chef, et un second qui n'était pas du tout sur ce genre de choses. Et du coup, en fait, c'est du travail par la coopération, par la cohésion. On essaie de voir comment on peut s'aider. Même si on n'est pas au même poste, on va se donner un coup de main, on finit ensemble. Voilà, ce genre de choses.
Ouais, je comprends.
Et ça change tout au niveau de l'ambiance. Et pour moi, de ce que je ressens, c'est on est plus productif, en fait. On est plus productif. C'est pas productif pour produire, hein, c'est la qualité de ce qui est produit est meilleure.
Mais oui, t'es pas sous pression.
Voilà.
Aujourd'hui, c'est quoi ton planning, ta semaine, elle ressemble à quoi? Aujourd'hui, pas forcément cette semaine, mais on va dire quand t'es en vitesse de croisière.
Globalement, c'est ponctué entre le fait de me poser dans un coworking ou un endroit où je peux travailler. Donc pour avancer soit sur des modules de formation à concevoir, soit avancer sur ma communication. Ou la prospection, donc envoyer des mails, faire des devis, encoder des factures ou faire ma comptabilité. Donc ça alterne ça alterne des rendez-vous comme là avec toi ou tout à l'heure je vais avoir un rendez-vous, j'ai deux rendez-vous tout à l'heure avec deux entrepreneurs différentes pour deux choses différentes. Qui permet aussi de créer des opportunités. Ça peut être aussi ponctué avec du networking, donc avec le petit-déj des mompreneurs. Ça peut ponctuer aussi de temps en temps mes journées dans le mois, hein, c'est pas tous les jours. Et parfois, c'est des journées complètes où là, je donne une formation. Ou autrement, la veille, par exemple, c'est je prépare. Donc ça veut dire aller faire les courses, ça veut dire voir le matériel que j'ai, peut-être racheter... tout mettre mes légumineuses à tremper, tu vois, si je dois tout préparer en amont pour que le lendemain je sois tranquille pour le faire. Ça peut être aussi concevoir des recettes, revoir des recettes, créer des nouvelles recettes. Également aussi avec mon activité, je fais non seulement du consulting, donc avec des audits, donc ça veut dire on va dans des cuisines, on observe, on fait des recommandations. Avec toute une panel de leviers qu'on peut mettre en œuvre, mais à court, moyen et long terme, pour aller vers moins de gaspillage alimentaire, ou pour inclure plus d'alimentation végétale, ou savoir comment s'approvisionner en circuit court, donc des recommandations de fournisseurs, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi... là, on a... Avec quatre entrepreneurs, on a créé une mallette pédagogique pendant le mois de mai. Donc pendant tout le mois de mai, on travaillait là-dessus à concevoir des activités ludiques pour les enfants à l'école, pour les sensibiliser au gaspillage alimentaire. Donc on a conçu à quatre une enquête pour qu'ils aillent questionner dans leur école donc les élèves, eux-mêmes, leur classe, mais aussi les professeurs, donc les équipes pédagogiques, les équipes de cuisine, donc ceux qui fabriquent, s'il y a une cuisine sur place, ou ceux qui servent, et de chercher déjà les causes et les conséquences du gaspillage alimentaire pour ensuite essayer d'inclure dans leur habitude des pratiques différentes. Et moi, surtout, moi, mon volet, c'est vraiment là-dessus, c'est vraiment, ça va être là, de octobre à mars, on va faire cet accompagnement de 30 écoles en Wallonie. Le but, c'est de faire l'éducation au goût. Donc moi, je vais venir, on va faire des dégustations à l'aveugle, en cru, en cuit, voilà, tout plein de choses comme ça. Donc c'est concevoir tout ça à l'avance, puis après, ça sera préparé. Donc je pense que octobre-novembre ça va être un peu chargé. Je pense que 4 jours semaine je serai en Wallonie avec mon chariot.
Oui, c'est ça.
Pour partir dans les différentes écoles. Donc voilà.
Génial, c'est génial. T'en as un peu parlé, mais une question que j'aime bien poser notamment aux entrepreneurs, c'est quoi ton matériel de travail pour faire ton métier, de quoi tu as besoin?
Donc mon ordinateur. Un disque dur externe pour les photos, parce que je prends beaucoup de photos pour la communication, pour faire des vidéos, des choses comme ça, donc ça demande beaucoup. Un chariot, donc j'ai un grand chariot que je peux brancher derrière mon vélo, qui a une partie qui peut être réfrigérée aussi, pour ne pas casser la chaîne du froid. Une autre partie non réfrigérée, là pour mettre tout le matériel, donc je mets mes planches, mes couteaux... tous les culs de poule, donc tout le matériel, hein. Les bols, les couverts, et puis après les bocaux ou les sacs avec le sec et le frais, donc les légumes, les fruits, tout ce qui est céréales, légumineuses, oléagineux, donc oui, mes couteaux, ça c'est aussi un ingrédient principal, et aussi les supports pédagogiques que je construis. Donc, par exemple, pour les formations professionnelles, je fais des slides en images très colorées. J'essaie de vraiment de mélanger plusieurs méthodologies pour que la transmission soit active et participative. Je déteste les cours descendants. Et donc, j'essaie vraiment que la personne, chaque personne puisse apporter son expérience. Je fais le liant, on va dire, hein, de la sauce. De confronter ces expériences pour pouvoir en fait apprendre encore mieux, surtout quand il y a des parties théoriques, hein. Je donne des formations par exemple professionnelles sur les allergènes. C'est quelque chose de très fastidieux, de très pointu, qui au niveau théorique il y a besoin d'avoir un support quand même pour comprendre, mais après s'il n'y a pas des exemples concrets, si on ne les met pas en situation, s'ils n'observent pas ou s'ils ne pratiquent pas des nouvelles recettes, ben en fait c'est compliqué d'imaginer tout ce qu'impose en fait le fait de cuisiner sans allergène ou de cuisiner sans un ou deux allergènes, donc rien que ça. Donc voilà.
Ok.
Donc globalement c'est ça que j'utilise.
C'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Vers quoi va pousser Hightech Culinary dans l'avenir?
Donc la suite, c'est vraiment de développer la partie B2B. En fait, avant, j'ai commencé chez Job Yourself mon business model sur du B2C. Parce que je trouve que la cuisine du quotidien de la plupart des gens s'avère compliquée. Donc pour moi, c'était vraiment... ma cible au départ, coup de cœur. Mais avec le confinement, donc, on va dire, j'ai commencé comme ça et c'était tu ouvres ta cuisine, tu as l'atelier qui t'est offert, mais moi je le remplis avec d'autres personnes qui viennent, ça fait comme table d'hôtes. On cuisine et on fait table d'hôtes à la fin et on mange ensemble. Et c'est un moment festif et en même temps on apprend. Donc c'était ça, tu ouvres ta cuisine. Et donc j'avais toute une planification sur plusieurs mois de plusieurs personnes qui ouvrent leur cuisine et de travailler comme ça en fait. Mais le confinement a tout bouleversé et plus personne ne voulait ouvrir sa cuisine.
On ne pouvait pas au début.
Et ne pouvait pas, et même après, plus tard. Maintenant, c'est devenu très très difficile de travailler avec du privé.
D'accord.
Et du coup, donc j'étais obligée vraiment de pivoter. Et là, c'est de me focusser sur du B2B. Donc, avec des opportunités créées par exemple, là, la mallette pédagogique qu'on a créée pour manger demain. C'est vraiment des opportunités avec les mompreneurs que j'ai eues. On m'a mis sur un appel d'offres ouais. Et que en tant qu'expert, et donc du coup on travaille ensemble. Et même avant, quand je faisais pour Manger Demain Toujours le consulting, c'était vraiment voilà, Sandra qui m'a mis sur l'appel d'offres en tant qu'expert, et du coup on travaille ensemble. Donc ça, c'est des opportunités en B2B qui sont voilà, c'est de la coopération,
c'est du réseau,
c'est, et donc ça c'est super chouette. Et l'autre volet qui est plus de l'Horeca, donc où je donne des formations pro chez Horeca Formabi Pro. Et là c'est des formations professionnelles sur appel d'offres, donc je remplis. Voilà. Et donc le but, ce serait vraiment ces deux là d'approfondir toujours plus des appels d'offres, des appels à projets. Et j'aimerais bien aussi davantage encore travailler avec l'Horeca pour toutes les structures qui n'ont pas toujours le temps ou le personnel suffisant pour envoyer en formation leurs apprenants, en fait, ou leurs employés. Mais que je vienne dans leur structure faire les formations. Voilà. Donc, il y a ce volet-là. Et il y a un autre volet où je voudrais, par exemple, accompagner aussi toutes les structures en insertion sociale et professionnelle ou en ETA qui ont besoin de modules complémentaires de formation. Parce que, par exemple, sur les allergènes, ça, c'est quelque chose d'obligatoire. Ils doivent être formés. Et même, c'est obligatoire même pour les restaurateurs. Maintenant, ils doivent mettre des choses en place à l'intérieur de leur restaurant, de leur café, etc., etc., pour faire de la prévention. Et j'aimerais bien aussi pouvoir travailler avec eux pour venir donner des modules complémentaires et que ça ouvre un peu le champ des possibles.
Ok, ok. Voilà. Mais écoute, je te souhaite tout ça, au moins. Et puis des belles surprises en plus. Pour terminer, j'ai une question que je pose depuis quelques épisodes. Notamment aux entrepreneuses, mais je pense que dans toutes les configurations professionnelles, c'est intéressant. Quel est le conseil que tu as reçu, que tu as trouvé vraiment intéressant ou que tu aurais aimé recevoir et qui aurait pu être utile? Parce que parfois, c'est des gens qui me citent « Ah ben, on m'a dit ça et j'ai fait exactement le contraire. » Et c'est comme ça que ça a marché.
Donc, le conseil que je retiendrai, c'était celui d'oser. Donc ça, c'était Stéphanie Adélaïde, quand j'étais à Madrid, qui m'avait dit « Voilà.
Faut y aller.
Teste. Ouais. Tente. Ose. Voilà, tu verras. » Et après, le conseil que je suivrai jamais, ou en tout cas que j'ai eu, mais que voilà, j'ai vraiment mis de côté, c'était du côté de ma famille, où c'était non, mais ça va jamais marcher sur certains membres de ma famille, pas tous, hein, mais ou d'autres qui étaient, mais quand est-ce que tu gagnes de l'argent, tu vois, quand est-ce que tu auras un vrai travail, voilà, donc tu devrais pas aller chercher un autre travail dans l'Horeca, voilà, qui est la solution de facilité pour moi. En fait, voilà, j'ai encore des appels réguliers. On me demande de venir chef à domicile, traiteur. Vous seriez libre pour un événement? Oui, non, je ne fais plus ça. Je ne peux plus, de toute manière.
C'est ça, donc, c'est ton corps dit non, de toute façon.
Ça, c'est clair, je ne peux plus. Donc, c'est très chouette, hein. C'est très chouette. Voilà, je pense qu'aussi, si je n'avais pas eu
cette activité...
Non, mais... Voilà, c'est pas ces problèmes de santé, mais le fait de ne plus pouvoir physiquement faire les choses, c'est très chouette dans le sens où ça m'a permis de développer tellement d'autres choses. En fait, je me rends compte qu'avec l'entrepreneuriat, au niveau de la créativité, ça permet vraiment de s'épanouir sur plein de plans différents, d'apprendre plein de choses différentes, que lorsqu'on est salarié, on apprend des choses, mais on reste quand même dans une certaine forme de case. Et on ne développe pas forcément, son esprit critique et encore moins sa créativité, malheureusement. Ou même si on a la créativité, au fur et à mesure, elle s'émousse. Parce qu'en fait, on dit « Ah mais non, c'est pas possible, ça va pas avec ici et ça, ici et ça. »
Là, tout est possible.
Oui.
C'est génial. C'est exactement ce que j'adore mettre dans les podcasts de récréation. Donc, c'est parfait.
Bon, c'est parfait.
Je me doutais bien qu'il y aurait de la créativité. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Écoute, comme d'hab, à la fin, je mettrai tous les moyens de te retrouver, même si des gens ne comprennent toujours pas que tu ne fais pas les événements, mais qu'au moins, voilà, ton info circule et que tu sois contacté. Il vaut mieux une fois de trop que pas assez.
Oui, après, voilà.
Tu peux relayer aussi, j'imagine.
En fait, c'est généralement ça que je fais. Je fais des mails joints. J'ai encore eu un appel là, je vais faire un mail joint. avec d'autres entrepreneurs, je sais qu'ils font des événements, qu'ils font voilà, des chefs à domicile, ce genre de choses, ou des choses plus spécifiques.
Ouais.
Et je mets en lien. Et souvent, les gens sont ravis parce qu'en fait, ça leur permet de rebondir, de découvrir en plus d'autres entrepreneurs. Et donc, c'est super chouette.
Mais de toute façon, te suivre sur les réseaux, moi je trouve que c'est toujours très gai. Sur LinkedIn, dans tous les posts, business, etc., il y a à un moment une photo de recette qui fait baver. Donc,
en ce moment, un peu moins. Oui, mais...
c'est toujours un bon plan.
Oui, oui. J'essaye de temps en temps de déguiser un peu les papilles,
c'est
l'imagination.
Très beau, c'est très...
Voilà, et de casser un peu le mythe de l'alimentation végétale, en fait.
Ouais.
Vraiment
de
faire saliver.
Et déjà
avec les yeux ou les mots, ça aide déjà un petit peu.
Tu fais ça très bien. Merci beaucoup, Tech.
Voilà. Merci beaucoup à toi.
J'espère que comme moi, vous avez bien voyagé et bien salivé. J'ai adoré entendre la diversité des expériences de Tech. Réaliser tout le petit monde qui s'affaire en cuisine pour qu'on passe de bons moments et qu'on savoure de bons petits plats. Grâce à elle, demain, chez vous, dans les entreprises, dans les collectivités, à la maison, il y aura sans doute moins de gaspillage, plus de végétal, meilleure connaissance des produits et plus de plaisir dans les assiettes. Si cette rencontre vous a inspiré, si cet entrepreneur vous a éveillé des envies de reconversion, vous savez que je serai ravie de découvrir avec vous le chemin de votre propre espace de récréation. Alors à bientôt !